il est midi et demi sur France Culture. Et on vous retrouve à Paris, Camille Manière, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Trois hommes arrêtés à Manchester dans l'enquête sur l'attentat qui a tué 22 personnes lundi soir et cette conviction des autorités britanniques, le terroriste présumé Salman Abedi n'aurait pas agi seul. Nous serons en ligne depuis Manchester avec Marie-Pierre Véraud pour faire le point sur l'enquête dès le début de ce journal. Nous verrons également que la ville de Manchester se mobilise depuis lundi soir pour faire face dans la dignité, dans la solidarité, surtout à l'épreuve qui lui est infligée. Ce sera un reportage de Julie Pietri. En France, Emmanuel Macron détaille ses mesures pour répondre à cette nouvelle hausse de la menace terroriste en Europe. Il veut prolonger l'état d'urgence, faire voter une nouvelle loi de lutte contre le terrorisme et il installe également sa task force anti-Daesh. Analyse à suivre de Nathalie Charbonnier. C'est une affaire qui tombe mal de l'aveu même du porte-parole du gouvernement. Le canard enchaîné qui révélait ce matin les soupçons de clientélisme autour du ministre Richard Ferrand et de son épouse. Nous y verrons plus clair avec Sophie Delpont. Trois repreneurs en lice pour les enseignes Tati, célèbre magasin de vêtements à tout petit prix. Un dossier social et éminemment politique suivi pour nous par Annabelle Grelier. Quant à l'invité de ce journal, c'est le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Avec lui, nous ouvrirons notre abécédaire de campagne à la lettre R comme recomposition. Le terroriste de Manchester n'a pas agi seul. C'est l'intime conviction des enquêteurs britanniques qui ont identifié hier donc l'auteur présumé de cette attaque suicide à la sortie d'un concert lundi soir à la Manchester Arena. Il s'agit de Salman Abedi, 22 ans, born and raised dans cette ville de Manchester, dans une famille de réfugiés libyens. Nous sommes en ligne justement depuis Manchester avec l'un des envoyés spéciaux de France Culture. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Camille.
Avec vous, on fait le point sur l'enquête, la personnalité justement de Salman Abedi et ce réseau terroriste qui semble se dessiner derrière lui.
Oui, hein, puisque vous le disiez, trois hommes ont été arrêtés dans le sud de Manchester ce mercredi. Ils sont donc quatre au total interpellés pour l'instant dans le cadre de cette enquête, car il semble bien que Salman Abedi faisait partie d'un groupe terroriste, qu'il était en lien avec d'autres personnes qui pourraient préparer de nouveaux attentats. C'est cette filière que les enquêteurs britanniques tentent de remonter, ce réseau qu'ils cherchent à identifier avec beaucoup de discrétion. Pas de conférence de presse détaillée ici du responsable des enquêtes, comme on a pu le connaître en France avec les interventions télévisées du procureur antiterroriste François Molins. Les services de sécurité britanniques étaient d'ailleurs furieux hier que leurs collègues américains aient dévoilé non seulement l'identité du kamikaze, mais aussi des détails sur ses allées et venues et des éléments de biographie, alors même qu'ils étaient toujours en train de resserrer leur filet sur ses proches et connaissances. Ce que l'on sait, c'est que si Salman Abedi était connu des services de renseignement avant son passage à l'acte, eh bien, il ne faisait pas partie des suspects particulièrement surveillés ou dont on pensait qu'il représentait une menace imminente. Il était plutôt considéré comme une personnalité périphérique, tout comme, remarque la presse britannique ce matin, l'auteur de l'attaque de Westminster, Khalid Massoud.
Et l'enquête, Marie-Pierre, se concentre aussi sur ces voyages qu'a effectué Salman Abedi en Libye.
Oui, la ministre de l'Intérieur britannique l'a confirmé ce matin. Salman Abedi s'est rendu en Libye où son père, qui avait fui le régime de Kadhafi, est rentré. Plusieurs allers-retours selon la presse et son dernier voyage serait très récent. Il serait revenu sur le sol britannique il y a quelques jours à peine. Alors, est-ce à Tripoli qu'il s'est radicalisé? Y a-t-il rencontré des membres de l'État islamique ou n'y allait-il que pour rendre visite à sa famille? Dans sa communauté, il est décrit comme un jeune homme très pieux et discret, voire renfermé. Son père lui est bien connu à la mosquée de Didsbury. C'est lui qui faisait l'appel à la prière dans cette mosquée de Manchester, considérée comme modérée. Mais un professeur d'université qui connaît bien la famille et qui travaille sur la radicalisation explique à la BBC qu'Abedi s'entendait mal avec ses parents, qu'ils avaient tenté en vain de le remettre sur le droit chemin. Et le Guardian rappelle que la communauté libyenne de Manchester compte parmi ses membres un certain Abdelraouf Abdallah, condamné pour terrorisme. Paralysé après avoir reçu une balle lors de la révolution libyenne, il a aidé plusieurs jeunes hommes à se rendre en Syrie pour combattre, notamment Stephen Gray, un ancien membre de l'armée de l'air converti à l'islam et lui aussi condamné à 9 ans de prison. Or, le kamikaze de l'Arena, Abedi, connaissait Abdelraouf Abdallah et pourrait donc lui aussi avoir été apprendre le combat en Syrie. Mais les autorités britanniques restent très prudentes sur ce possible voyage en Syrie qu'elles refusent de confirmer. C'est notamment en tout cas la relation entre ces deux hommes que la police et les services de renseignement du MI5 tentent d'élucider. Ils veulent comprendre comment ce jeune homme de 22 ans, décrit comme un fan de Manchester United et usager de cannabis, a pu basculer, semer l'horreur et commettre le plus grave attentat sur le sol britannique depuis 12 ans.
Et j'ajoute, Marie-Pierre, Pierre Véraud, merci à vous. Que selon le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb, Salman Abedi s'est sans doute rendu en Syrie où il se serait radicalisé, aurait décidé de commettre cet attentat. Donc selon Gérard Collomb, la ville de Manchester, nous y restons. La ville bien décidée à rester debout après cet attentat qui a visé la jeunesse mancunienne. Nous sommes à présent avec Julie Pietri, également en direct de Manchester, où depuis lundi soir, Julie, vous avez senti se lever un vrai élan de solidarité.
Et premier exemple assez frappant, la nourriture, l'eau distribuée par des habitants, des associations, comme sur le rassemblement d'hier soir, place de l'Hôtel de Ville. Des stands improvisés se sont montés avec bonbons, boissons et sandwichs et des panneaux en carton où étaient inscrits, comme pour dissiper tout malentendu, c'est gratuit, servez-vous. Une pizzeria proche de l'aréna a même servi gratuitement les personnes qui venaient se recueillir hier, les policiers, les journalistes. Olivier et Yacine étudient à Manchester.
Des choses assez simples mais qui nous montrent que rien ne pourra briser l'esprit de communauté qu'il y a ici et qui a été là depuis de nombreuses années. C'est pas un acte comme celui-ci qui va changer quoi que ce soit. C'est l'élan de solidarité, je trouve que ça a été juste incroyable.
Le don de sang aussi a été vraiment... Il y a eu des queues immenses pour le don de sang.
Ça a été super spontané, personne n'a réfléchi à quoi que ce soit. Personne n'a ciblé qui que ce soit non plus. C'était vraiment un élan humain. Ah, c'est dingue.
Au Manchester Royal, l'un des hôpitaux de la ville, l'infirmière Joan Green a effectivement vu arriver petit à petit des centaines de personnes.
Hier, ça a été une matinée et une journée intense pour nous. Comme beaucoup d'autres hôpitaux, nous avons répondu aux appels, aux besoins de sang à Manchester et on a eu une énorme réaction des habitants de la ville. Je pense que près de 500 personnes au moins sont entrées en contact avec nous, juste sur ce site.
Et puis, il y a bien sûr la solidarité en ligne avec de l'argent récolté pour des proches de victimes, pour payer par exemple les funérailles de John Atkinson, 26 ans, tué en sortant de la salle de concert. Plusieurs milliers de livres sterling rassemblés également pour deux SDF qui ont secouru les rescapés lundi.
Julie Pietri, merci à vous. Et puis nous remercions également Pierre Quintard qui a rendu possible ces deux duplex en direct donc depuis Manchester. Quelles répercussions en France à présent de ce nouvel attentat revendiqué par Daesh dans un pays européen? Emmanuel Macron a présidé ce matin un conseil de défense. Il y a précisé les mesures qu'il comptait prendre face à cette nouvelle aggravation donc du risque terroriste. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
On savait que le président Macron voulait mettre en place une task force anti-Daesh. On sait aussi depuis quelques heures, et ce conseil de défense, qu'il veut avant cela prolonger encore l'état d'urgence qui dure en France depuis l'attentat du Bataclan il y a un an et demi.
Oui, il y a trois éléments à retenir de le communiqué du président de la République. Tout d'abord, l'état d'urgence qui devait arriver à échéance le 15 juillet prochain sera prolongé jusqu'au 1er novembre. L'état d'urgence avait été déclenché par François Hollande après les attentats du 13 novembre 2015 et depuis il avait été reconduit à trois reprises. L'état d'urgence est une série de mesures qui permettent en cas de crise de limiter certaines libertés, interdiction de manifester, assignation à résidence, perquisition administrative de jour comme de nuit par exemple. Deuxième axe de travail, le président aimerait avoir à disposition une loi qui permette de sortir de l'état d'urgence tout en gardant un niveau de sécurité élevé. Conséquence, il demande au gouvernement de travailler sur un texte législatif qui permettra aux citoyens de retrouver une plus grande liberté tout en assurant aux forces de l'ordre la possibilité d'agir efficacement et rapidement si le besoin se faisait sentir. Troisième décision, le président souhaite, comme il l'avait dit pendant la campagne électorale, créer un centre de coordination des services engagés dans la lutte contre le terrorisme. Cette cellule dépendra de l'Élysée et rassemblera les informations de tous les services, police, l'armée, l'espionnage, etc.
Ça, c'est ce qu'on avait appelé justement la task force anti-Daesh, directement sous le contrôle d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Oui, task force, c'est le terme anglais pour désigner une force opérationnelle, créée temporairement pour exécuter une tâche ou une action précise. En l'occurrence ici, lutter contre le terrorisme. Parce que c'est l'une des spécificités françaises, on a du mal à communiquer. L'anecdote dit que les différents services français communiquent mieux avec leurs homologues étrangers qu'avec leurs partenaires tricolores. Cette task force serait composée d'une petite centaine de personnes, entre 50 et 100, on ne sait pas encore exactement. Sa mission, collecter et rassembler toutes les informations venant de tous les services français s'occupant de sécurité, on l'a dit. Cette cellule existe déjà, mais au niveau du ministère de l'Intérieur. Là, il s'agirait de la rattacher directement au président de la République. Intérêt de la manœuvre, obliger toutes les parties à coopérer sous les ordres directs d'Emmanuel Macron.
Macron.
Nathanaël Charbonnier, merci à vous. Et puisque l'on parle de lutte contre Daesh, sachez que selon la télévision d'État syrienne, le ministre de la guerre, ainsi dénommé en tout cas, Abu Moussab al-Masri, ministre de la guerre de l'organisation djihadiste État islamique, aurait été tué par l'armée syrienne à l'est de la ville d'Alep. La contre-attaque par l'humour, tentative en tout cas, de Richard Ferrand, le tout récent ministre de la cohésion des territoires, très proche d'Emmanuel Macron, évoque un cadeau de bienvenue pour parler de cette affaire soulevée par le Canard Enchaîné, qui concerne un montage immobilier dont a bénéficié la femme du député du Finistère, du temps où Richard Ferrand dirigeait les mutuelles de Bretagne. Ce dernier rejette donc ce matin ce qu'il qualifie de dénonciation calomnieuse. Alors pour bien comprendre de quoi il est question ici, Sophie Delpont nous a rejoint en studio. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors dites-nous, qu'est-ce qui est reproché précisément à Richard Ferrand et à son épouse ?
C'est d'avoir mené une belle opération immobilière financée par les mutuelles de Bretagne. L'organisme avait besoin de louer un nouveau local en 2011 et parmi les trois offres sur la table, c'est celle de la compagne de Richard Ferrand qui a été choisie à l'unanimité alors que celle-ci n'était pas encore propriétaire de ce bien de près de 380 mètres carrés en très mauvais état. Elle constitue alors une société civile immobilière et contracte un prêt pour acquérir le lieu et financer l'intégralité des travaux de rénovation. Investissement remboursé par les loyers de 42 000 euros par mois perçus depuis. Dans son communiqué ce matin, Richard Ferrand ne remet en cause aucune des informations du Canard Enchaîné, mais qualifie ces révélations de pseudo-affaires.
Et on le dit tout de suite, hein, Sophie, il n'y a rien a priori d'illégal dans ces faits qui pose question par contre sur un plan plus moral, et ça tout particulièrement dans une séquence politique où le gouvernement a fait de la moralisation de la vie politique française une de ses grandes priorités.
Oui, alors que François Bayrou, garde des Sceaux, a lancé depuis lundi le chantier de la future loi sur la moralisation de la vie politique, la probité de Richard Ferrand n'est pas en cause, déclare l'entourage du Premier ministre Édouard Philippe, mais ce genre de bonnes affaires évoque bien de vieilles pratiques, d'autant que le Canard Enchaîné dévoile également que Richard Ferrand aurait employé son fils comme assistant parlementaire pendant l'été 2014 pour un montant total de 8 700 euros bruts. Autre affaire embarrassante révélée, elle, par Mediapart, c'est le cas du député radical de gauche Alain Touré, candidat investi par La République En Marche. Il aurait utilisé sa réserve parlementaire pour acheter une télévision, des parties de golf et des vacances au Club Med notamment. Même s'il déclare avoir remboursé plus de 16 000 euros depuis, il n'est pas certain que cela suffise à éteindre l'incendie en pleine campagne des élections législatives.
Sophie Delpont, c'est vrai, on peut le dire, donc que ces affaires tombent mal, comme le disait le porte-parole du gouvernement Philippe Castaner ce matin. Nous saluons à présent l'invité de cette édition, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Sur ces révélations concernant le ministre Ferrand, justement, ça tombe mal pour le gouvernement qui vient d'être nommé ?
Une affaire, ça tombe toujours mal, que ce soit pendant une campagne présidentielle ou lorsque le gouvernement est nommé.
Et on est bien placé pour en parler dans votre camp.
Je n'ose dire que, comme je connais pas ni Monsieur Ferrand, ni Monsieur Touré, ni à vrai dire leurs affaires, je ne vais évidemment pas porter de jugement. Je préférerais connaître en détail les éléments.
Bon, alors
je
sur la loi de moralisation de la vie politique,
Sur le commentaire, si je puis me permettre, oui. de votre collègue, je pense qu'il ne s'agit pas de la réserve parlementaire, mais de l'IRFM. Parce que la réserve parlementaire est versée par le ministère de l'Intérieur. Donc je doute que le ministère de l'Intérieur ait fait des achats personnels sur la réserve parlementaire de M. Touré.
En tout cas, Roger Karoutchi, sur la loi de moralisation de la vie politique en préparation donc chez François Bayrou, elle vous convainc pour ce que l'on en sait à ce stade ? Elle est nécessaire, cette moralisation ?
Alors, je serais tenté de dire, premier élément, de mémoire, dans les 20 dernières années, il y a eu 7 ou 8 lois de transparence, de moralisation de la vie publique. Et chaque fois, on a l'impression d'accomplir le geste définitif. Bon, on se rend bien compte que les choses sont plus compliquées que ça et qu'il faut évoluer avec le temps. Il y a à la fois la loi, d'un côté, le droit, et de l'autre côté, la morale, l'éthique ou la pratique qui évolue.
Bon,
il y a plusieurs choses dans le texte,
oui.
Dans le texte dit de moralisation qui, à mon avis, à la fin de la fin, s'appellera texte sur la transparence ou texte sur je sais pas quoi. Il y a toute une batterie de propositions, notamment formulées par René Dosière. Et puis il y a des choses moins claires, c'est-à-dire que autant discuter naturellement des éléments financiers, des éléments de fiscalité, des éléments de retraite. Tout ça, c'est sur la table et ça doit être discuté. Autant, c'est pas la même chose quand on dit, puis on dira pas plus de 2 mandats, pas plus de 3 mandats, parce que là, c'est autre chose. Il y a des, je trouve que pour le moment, il y a un mélange des genres qui est pas clair. Alors, je pense que François Bayrou va faire une distinction et qu'il y aura un texte sur la transparence et un texte sur le statut de l'élu ou sur les élus, mais c'est pas du tout la même chose, mais
Roger
j'attends
Cordier,
de voir.
On va vous retrouver, on va garder du temps de parole pour vous entendre tout à l'heure dans notre abécédaire de campagne, donc à la lettre R comme recomposition. Midi passé de 45 minutes sur France Culture, la suite de cette édition, c'est le tribunal de commerce de Poitiers qui confirme ce matin le sursis accordé à la société GM&S et ses 283 salariés. Pas de liquidation judiciaire, donc en tout cas pas avant le 30 juin pour l'équipementier automobile creusois. La période d'observation est prolongée. Les engagements de Renault et PSA sous la pression de Bercy ont, semble-t-il, convaincu le tribunal d'accorder aux candidats à la reprise de GM&S jusqu'à la fin du mois de juin, donc pour mettre à jour leurs offres de reprise. Un autre dossier social qui pèse lourd en ce moment sur les bureaux de Bercy, c'est celui de Tati, l'enseigne de vêtements et de décoration à bas prix. Là aussi, la société qui appartient au groupe Eram doit se trouver un repreneur. Les candidats avait jusqu'à ce matin pour se faire connaître. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour.
3 repreneurs possibles pour Tati et plus largement pour la filiale Discount vestimentaire de Eram.
Alors, 3 offres définitives ont été déposées auprès des administrateurs judiciaires pour la reprise de Tati, émanant d'un consortium regroupant Centracor, Stocamani, Maxi Bazar et Foirefouille du groupe Jiffy et du déstockeur Babou. Les offres du consortium et de Jiffy se proposent de reprendre plus de 70% des salariés, mais leur projet industriel diffère radicalement. Jiffy propose de reprendre 95 des 140 magasins et 1300 des 1754 salariés, souhaite conserver l'enseigne au Vichy Rose et blanc qu'il compte redresser. Le consortium de déstockeurs propose lui aussi de reprendre 95 magasins et 1258 salariés, mais il propose de faire passer la majorité des magasins Tati sous ses propres enseignes. Babou, lui, se propose pour sa part de reprendre 6 magasins Tati et leurs salariés. Le tribunal aura à juger de la solidité et de la faisabilité de ces projets. Les offres de reprise seront donc examinées le 29 mai par le tribunal de commerce de Bobigny.
Et au-delà de ça, Annabelle, on voit que ce dossier Tati, il est finalement au moins autant social que politique.
À plusieurs reprises, les syndicats et salariés de Tati ont appelé à l'aide le nouveau gouvernement, de plus en plus fort pour être entendu. Car après le dossier Whirlpool de l'entre-deux-tours, que ce soit GM&S, le sous-traitant automobile de la Creuse, ou les magasins Tati, bien sûr, une campagne électorale est toujours une fenêtre de tir pour attirer l'attention des politiques. Donc ces 3 dossiers sont sur le bureau de Bercy, on peut les considérer comme ceux de l'état de grâce présidentiel. Pas sûr qu'il y en ait d'autres dans les mois à venir, car à l'Élysée, les proches du président revendiquent clairement le fait que les entreprises doivent parfois détruire des emplois pour en créer d'autres et qu'il faut cesser de tenter de sauver tous les postes sous la pression des syndicats et des médias. Mais le dossier Tati est d'autant plus politique que le fils de l'ancien président, Thomas Hollande, est l'avocat des enseignes Tati et Fabio Lucci et qu'il a déjà interpellé le président sur ce dossier, estimant que les salariés étaient victimes de la loi Macron qui a supprimé l'obligation pour les groupes de financer les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi, pour leurs filiales en redressement judiciaire. Une loi qui, selon Thomas Hollande, pousse des groupes à abandonner leur filiale, à les mettre en redressement judiciaire pour ne pas assumer leurs responsabilités. En clair, puisque le ministre Macron a ouvert la boîte de Pandore, que le président Macron nous dise comment la refermer. Une rengaine qui risque bien de se répéter dans les mois à venir sur les prochains dossiers sociaux, Camille.
Annabelle Grelier, merci à vous. La Bourse de Paris a suspendu les cotations pour les actions Safran et Zodiac. Dans la matinée, ça fait suite aux informations du journal La Tribune, selon qui Safran va annoncer une offre de rachat sur Zodiac, mais une offre à un prix inférieur à 25 euros par action. Ça représente, selon la Tribune, toujours une décote de plus de 15% par rapport au projet initial entre les 2 équipementiers automobiles. Comme chaque mercredi à 12h passées de 48 minutes, nous ouvrons notre abécédaire de campagne à la lettre R comme recomposition. Aujourd'hui, nous sommes toujours en duplex depuis le Sénat avec le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Et face à vous, il y a Stéphane Robert du service politique de France Culture pour mener l'interview.
Roger Karoutchi, comment est-ce que vous expliquez ce qui s'est passé à la présidentielle avec l'élection d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un besoin de renouvellement, de régénération, ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus profond qu'on pourrait appeler une amorce de recomposition politique?
Non, moi je suis pas convaincu, je sais bien les choses sont ce qu'elles sont. Emmanuel Macron a gagné, il n'y a pas de contestation de légitimité. Le deuxième tour a été évidemment, entre guillemets, on veut pas de Marine Le Pen, donc Emmanuel Macron a fait le score qu'il a fait. Au premier tour, il a fait 24. François Fillon, avec toutes les affaires, toutes les polémiques et tout, fait un peu plus de 20. Donc m'expliquer qu'il y a eu un raz-de-marée sur un renouvellement nécessaire et tout, je n'y crois pas. Il y a 6 mois, la droite devait gagner cette élection qui était imperdable. En revanche, l'élection de M. Macron crée maintenant un choc qui va forcément transformer la vie publique.
Alors, on a l'impression que la droite est en train de se couper en deux, avec d'un côté une droite un peu une droite humaniste, européiste, modérée, on pourrait dire, et une droite beaucoup plus conservatrice et identitaire, qu'on pourrait dire qu'elle se range derrière Laurent Wauquiez et puis l'autre derrière Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin, par exemple. Est-ce que c'est le cas? On voit Gérald Darmanin qui dit « Moi, j'ai beaucoup plus de différence avec Laurent Wauquiez qu'avec Emmanuel Macron. »
Oui, bah, il est ministre. S'il avait dit qu'il n'avait rien de commun avec Emmanuel Macron, c'était difficile. Non, je ne crois pas que ce soit si simple. Depuis toujours, à l'UMP, il y a une aile centriste et libérale, une aile un peu plus... souverainiste, un peu plus tourné vers le niveau national. Mais pendant 15 ans, ça n'a pas empêché de vivre ensemble, de travailler ensemble, de gagner ensemble un certain nombre d'élections. Alors, on verra ce qui se passe après le 18 juin. Soit le 18 juin, la droite et le centre gagnent les élections. Et comme par hasard, tout le monde trouvera que, naturellement, les Républicains, c'est merveilleux. Soit la droite et le centre ne gagnent pas les élections, mais ont un score correct et beaucoup de sièges quand même, et un groupe important. Et là, il peut y avoir formalisation d'une opposition constructive. J'entends bien ce que dit Raffarin, formant un groupe, les constructifs ou les constructeurs.
Oui, les constructifs, enfin, bon, oui.
Les constructifs. Oui. Mais c'est globalement l'opposition qui doit être constructive, pas un groupe constructif et un groupe destructif. Il y a pas, ça n'existe pas, ça. Moi, j'ai voté, même pendant le mandat de M. Hollande, j'ai voté plein de textes de M. Cazeneuve, j'ai voté un certain nombre de choses, j'ai même voté quelques amendements de la loi Macron. Par conséquent, tout va bien. Mais je pense qu'il faut attendre le 18 juin. Il y a pour le moment la campagne législative. Au lendemain, la situation de la droite sera déterminée par la manière dont elle se sort des élections législatives. Si c'est pas bon du tout, effectivement, il y aura crise et départ. Et parce que les gens se diront, vu l'état de la droite, il faut bouger. Si nous gagnons, comme par hasard, tout le monde trouvera qu'on est merveilleux. Donc on va attendre un peu.
Comment est-ce que vous expliquez, parce qu'il n'y a pas qu'à droite, il y a la gauche aussi, oui. Comment vous expliquez que les deux grands partis de gouvernement se retrouvent à ce point, si ce n'est fracturés, ou tout du moins affaiblis par l'offre politique finalement proposée par
M. Macron ? Je crains que malheureusement ce soit la mise à mort définitive des primaires. Les grands partis politiques sont organisés avec leurs adhérents sur une structuration à gauche comme à droite différenciée. C'est évident qu'on a lancé à gauche et à droite des primaires. Comme par hasard, à gauche et à droite, les favoris du parti n'ont pas été les favoris de la primaire. Les primaires ont quand même pas mal, soyons francs, divisé, créé des tensions. Celui qui, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui lui n'est pas passé par les primaires et qui finalement a survolé tout ça sans participer aux tensions et aux divisions, eh ben, il a réussi. Et puis vous rajoutez là-dessus les affaires ou les polémiques sur François Fillon. Bon, voilà. Alors après, on m'explique que ça veut dire que tout le système politique doit être modifié, que la lumière est arrivée, que c'est une nouvelle ère qui commence. J'ai un peu le sentiment d'avoir entendu ça souvent, chaque fois qu'il y a une alternance un peu forte. La vie publique, elle est plus compliquée que ça. Il n'y a pas les partis d'un côté, le pays de l'autre, ça n'existe pas. Les partis sont formés de citoyens.
On a un certain nombre d'universitaires, de chercheurs ou de politologues comme Monsieur Pascal Perrino, par exemple, qui disent que petit à petit, ce clivage droite-gauche est en train de laisser la place à un clivage qu'on pourrait qualifier de souverainiste, mondialiste ou nationaliste européiste. Vous pensez pas que c'est un petit peu le cas ?
Je suis pas convaincu, sincèrement. Je pense qu'en revanche, la Ve République arrive au terme de l'évolution. Le quinquennat a modifié la donne avec les élections législatives. La réforme de 2008 a voulu redonner un peu de pouvoir au Parlement, et en réalité, on n'y est pas arrivé complètement. Il y a une présidentialisation du système. Il y a une autorité aujourd'hui de l'exécutif qui est extrêmement forte et centrée sur le président de la République, pas sur le gouvernement. Donc voilà. L'évolution, en réalité, dans ce pays, elle est oui ou non. Est-ce qu'on va vers un système à l'américaine avec un parlement totalement autonome par rapport à un gouvernement qui n'est qu'à la main du président de la République? C'est le président de la République qui est la clé de voûte du système de la Ve République, et Macron va amplifier ce phénomène dans la mesure où il peut considérer que n'étant pas issu d'un parti, il a, lui, refait le lien direct entre le peuple et lui, ce qui lui donne un pouvoir particulier.
Roger Carucci, merci à vous. Il est temps de clore cette abécédaire de campagne. Merci également à Stéphane Robert, donc, qui a assuré l'interview en direct du Sénat grâce aux moyens techniques assurés par Laurent Macchietti. La météo estivale sur tout l'Hexagone aujourd'hui, sauf pour le nord, nord-ouest, qui resteront sous les nuages. Température cet après-midi comprise entre 24 et 28 degrés pour la moitié septentrionale du pays, jusqu'à 30 degrés sur la moitié sud. Cette édition a été réalisée par Yacine Bouza. À 18h, c'est Arash Legel qui vous présentera le prochain journal de la rédaction.